Oui, alors en effet, nous sommes lyonnais depuis 24 heures, comme ça. On a reçu un nouveau nom. Non, mais on a perdu le côté sacergois pour devenir lyonnais. Non, ça nous réjouit beaucoup. Tout s'est très bien passé. Et puis, merci aussi beaucoup à tous ceux qui nous ont aidés. Là, on a vraiment été soutenus de nouveau. On voit la force d'une communauté. Il y a différents petits coups de main qui nous ont été donnés, des grands coups de main aussi. Donc, merci à toutes celles et ceux qui étaient présents pour nous, pour ce déménagement. Alors, le fait de venir à Nyon, ça nous a pas mis la tête à l'envers. C'est plutôt ceux qui regardent le match de Federer et Nadal, là. D'ailleurs, si vous faites semblant de relire la Bible sur votre téléphone, je saurais que c'est pas vrai. Et vu vos têtes, je serais plus ou moins inquiet, on va dire ça comme ça. Non, j'ai choisi ce titre parce que je suis en train de lire un livre par rapport à ce thème de la mission qu'on est en train de vivre ces semaines et puis qui va se poursuivre dans notre réflexion ce premier semestre en gros à la FRAT. Et puis je suis tombé sur cet extrait d'un livre qui s'appelle Faithful Presence, sept disciplines pour avoir une église en mission. Et puis Faithful Presence, c'est-à-dire une présence fidèle et vivante. Et puis il commence son livre, cet auteur, par ce constat, et puis il m'a interpellé ce constat. Puis qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, depuis un moment, en Amérique du Nord ou en Europe, on manque quelque chose, et pour la plupart d'entre nous, on ne l'a même pas remarqué. On court dans tous les sens pour travailler, on a des tas de rencontres à gauche, à droite, on va faire ses courses. Pour moi, ça sera beaucoup plus facile, je suis juste à côté de la Migros. On amène les enfants à leurs différentes activités, on court tout le temps, on s'efforce de faire au mieux notre travail, d'avoir une carrière respectable, de payer nos factures à temps. Je ne sais pas si vous vous retrouvez dans tout cela. Et pendant tout cela, on oublie que Dieu est présent tout autour de nous et que ce Dieu qui est présent autour de nous, il est même au travail. Tout ce que nous avons à faire, c'est de recommencer, ou même voir, de commencer à nous en rendre compte tout à nouveau. Pour la plupart des chrétiens en Occident, Dieu est une croyance individuelle, une relation personnelle, une expérience d'ordre privé. Et puis la phrase qui m'a tilté, Dieu c'est quelque chose que l'on case entre toutes les autres choses de notre vie. Je dois bien avouer que des fois, je me retrouve dans ce constat dû à la liste de choses que je viens de vous énumérer, de toutes ces choses que l'on a à faire, à travailler, à s'occuper. On s'occupe l'esprit avec mille et mille et une occupations. Si bien qu'au bout d'un moment, si on est un peu lucide, en tout cas si je suis lucide, je vais parler en jeu, je ne vais pas vous inclure forcément là-dedans, peut-être vous allez me dire que je suis le seul à penser comme ça, mais vu vos sourires, ce n'est pas le cas. Dieu devient quelque chose que l'on case en toutes les autres choses de notre vie. Et on en oublie qu'il est là tout le temps. Et d'où la photo que vous avez vue sur le Frat News. Il me semble que souvent, nous les chrétiens, on peut se poser la question si on n'a pas un peu perdu la tête. Si on n'est pas en train de vivre un peu notre vie de chrétien, la tête à l'envers. Ou bien alors la tête dans le guidon. C'est toutes des expressions qui ont lieu avec la tête, hein, cette tête à l'envers. Bien sûr, on écarte un peu plus large notre perspective à l'Église. Est-ce que l'Église, elle n'a pas perdu des fois la tête? Est-ce qu'elle ne marche pas souvent la tête à l'envers? Ou alors est-elle la tête dans le guidon? On peut légitimement se poser des questions par rapport à ce constat que souvent, Dieu, finalement, on oublie qu'il est présent partout parce qu'il est seulement présent dans certaines cases de notre vie. J'ai fait, vous le savez, une première formation en management. Et puis le management, c'est exactement ce qu'il nous apprend à faire, c'est à sectoriser chaque secteur de notre activité, le mettre dans différentes petites cases. Et puis ensuite, grâce à cette sectorisation, notamment par checklist, on arrive à une efficacité extraordinaire, soi-disant. Ça, c'est sur le papier. Mais c'est quand même ce qu'on nous apprend à faire. Et puis ça, d'une certaine manière, ça nous formate dans un certain mode de pensée. Puis, plus j'avance, plus je me rends compte que la société dans laquelle on vit, elle est assez managériale. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de nos pratiques qui viennent directement du mode du management. Donc, c'est pas pour rien qu'on en arrive à des constats comme celui-là, comme quelque chose que l'on case parce qu'on est dans un souci d'efficacité, de performance, et on a besoin de pouvoir sectoriser tous les secteurs de notre vie au mieux possible. Et du coup, avec Dieu, le risque de faire la même chose, il est là, il est grand. Et pourtant, si on se plonge dans la parole, qu'est-ce qu'il nous a dit dans l'Épître aux Éphésiens ? Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, ce « il a tout mis sous ses pieds et il a donné comme tête au-dessus du tout à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Cette tête, c'est Jésus-Christ, qui est la tête du corps, qui est son Église. Ça, c'est dans Colossiens, cette fois. Cette tête, elle est là tout le temps, indépendamment que nous la placions véritablement et que nous en soyons conscients ou pas. Cette tête, elle est là devant nous, indépendamment de ce que nous vivons, de ce que nous pensons, de ce que nous pouvons ressentir. Le seul hic, c'est que des fois, on l'oublie. Alors, de grâce, ne prenez pas ces versets d'un point de vue moral, dans le sens « Ouh là 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 là, on avait oublié ce fameux verset d'Éphésiens, c'est terrible, on va s'autoflageller, on va se dire « Le pasteur nous a rappelé ce matin qu'on devait toujours nous souvenir que la tête de l'Église, c'était Jésus », puis finir avec une espèce de mauvaise conscience et de culpabilité. Non, c'est pas mon but. Mon seul but ce matin, c'est que on puisse tout à nouveau prendre ce verset comme étant une bonne nouvelle. Celle de savoir et de savoir tout à nouveau que Jésus est véritablement à la tête de son Église qui est son corps. C'est mon seul message. Si vous repartez avec ça ce matin, je suis super content. Que cette bonne nouvelle nous habite de savoir que Jésus est à la tête de son Église et que nous sommes son corps. On a pris pour cette année, puis pour les suivantes, je pense aussi, on verra bien, comme un peu cette vision, cette mission qui nous est donnée de partager l'amour de Jésus-Christ avec chacun. Et puis la question que je me pose en lisant ces versets dans Éphésiens puis dans Colossiens, de savoir que Jésus est à la tête, c'est de savoir si cette mission, c'est vraiment la nôtre, ou bien si c'est nous qui suivons celui qui l'a déjà entamé. On a parlé au début de cette année de cette rencontre du jeune homme riche avec Jésus, puis sa première question qu'il pose à Jésus, c'est « Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir le royaume de Dieu ?» Puis Jésus lui répond « T'as rien à faire, mon gars. Ce qui compte, c'est que tu reçoives ce que moi je vais te donner. » Ce qui est impossible aux yeux des humains est possible pour Dieu. Donc cette mission, on peut exactement la prendre de la même chose que pour le jeune homme riche. Jeune homme riche qu'on est souvent. Si on se met dans cette mission en ayant comme idée de tout ce qu'on doit faire, on est perdu d'avance. On est déjà sur la mauvaise route. On est avant tout à la suite du Christ. Et cette mission, visiblement, si on prend au sérieux ces versets, c'est pas la nôtre. C'est Jésus qui l'a déjà entamé il y a 2000 ans, puis nous on est simplement en train de marcher à sa suite. Il est à notre tête et nous, nous sommes son corps dynamique qui suit derrière. C'est plus quelque chose que l'on case comme ça et que l'on a à faire, à toutes les autres choses à faire de notre vie. C'est quelque chose qui englobe le tout et qui devient une réalité vivante, un corps. Quand je me suis engagé au comité de direction de la Ligue pour la lecture de la Bible, je ne sais pas si vous connaissez cette œuvre chrétienne, pour la plupart d'entre vous, je pense oui, c'est quand même une œuvre chrétienne d'une assez grande importance, qui gère plusieurs millions de budget, qui a plusieurs employés, dont j'ai été, dont Nathalie est employée. Puis, avant de m'engager, j'ai posé la question au président de la Ligue, parce que c'est quand même lui qui a le plus de travail, nous au comité, on se dépose un peu beaucoup sur lui, c'est son rôle. Puis j'ai demandé, mais comment tu fais pour vivre au mieux avec toutes tes autres activités, cette responsabilité de président de la Ligue? Puis il m'a dit quelque chose qui m'a marqué à tout jamais. Il m'a dit, mais tu sais David, cette mission, aussi importante soit-elle, c'est pas la mienne, c'est celle du Seigneur. Et depuis que j'ai compris ça, il m'a dit, je dors tranquille et je peux aller de l'avant de manière extrêmement dynamique. Cette mission, c'est pas la mienne, c'est celle du Seigneur. Puis je peux vous garantir que si vous le voyez à l'œuvre, ce constat, ça ne l'aurait pas fait démissionner. Au contraire, ce constat lui a donné une dynamique, une vie complètement nouvelle. Il en va de même pour nous. Cette mission que l'on s'est donnée pour nous, communauté, de partager l'amour du Christ. Ce n'est pas une mission où on s'impose quelque chose, une tâche supplémentaire, mais c'est, je crois, le chemin que Dieu prépare devant nous et puis où nous sommes appelés à entrer à la suite sur son chemin. Ensemble, partageons l'amour de Jésus-Christ avec chacun. Ce n'est pas avant tout notre mission, c'est celle que Jésus a déjà commencée et c'est celle que nous, on commence à intégrer. Et nous avons une promesse qui va avec cette mission. C'est, si j'y arrive, ce verset 23, où il nous a dit qu'il a tout mis sous ses pieds, il nous a donné Christ comme tête au-dessus du tout, au-dessus de tout, à l'Église qui est son corps. Et la promesse que nous avons, c'est que nous pouvons entrer dans cette plénitude qui remplit tout en tous. C'est merveilleux comme promesse, hein? Rentrer dans cette plénitude, c'est-à-dire la présence complète de Dieu en nous et parmi nous. Et cette présence ensuite qui déborde autour de nous. On a chanté cette flamant, on aime bien ce chant parce qu'il est assez identitaire. Mais qu'est-ce qu'il nous dit dans ces derniers versets? C'est que cette lumière qui vient briller en nous, ensuite elle brille autour de nous. Mais si elle ne commence pas par briller en nous, impossible qu'elle brille autour de nous, on peut se donner de la peine pour essayer de la faire briller, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Mais c'est exactement la même chose que nous dit ce verset. Cette plénitude qui rentre en nous, ensuite, elle va se répandre autour de nous. Cette présence qui est autour de nous, en nous, elle se répand autour de nous. On parlait ce matin, avant le culte, de cette nécessité de faire ces expériences intérieures, de vivre quelque chose de fort avec le Seigneur, pour ensuite répandre ce que nous avons vécu autour de nous, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et puis encore la bonne nouvelle, je prends le passage à l'envers, vous avez vu, je parle de la fin, et puis je remonte petit à petit. Quelles sont les caractéristiques qui nous sont données de ce Jésus qui est à la tête de notre Église? C'est que c'est celui qui illumine les yeux de notre cœur pour que l'on sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'opération souveraine de sa force. Il est riche à ce verset. Il illumine les yeux de notre cœur, il renouvelle notre espérance, il nous fait partager son héritage glorieux, et il nous offre, il nous donne sa puissance envers nous qui croyons. J'étais au repas sympa la semaine passée. C'était très sympa d'ailleurs. Merci à la famille Jacques qui nous a accueillis. Puis à un moment donné, la discussion, elle est venue sur l'apôtre Paul parce qu'on se demandait qu'est-ce qu'on allait revoir avec plus de joie au ciel. Puis quelqu'un a dit, moi, ce sera Paul parce que j'ai des tas de questions à lui poser parce que je comprends rien à ce qu'il raconte. Non, ou peu de choses à ce qu'il raconte. Je citerai pas qui c'est, je donnerai pas de nom. Moi aussi, j'ai plein de questions à lui poser, mais là, c'est lui qui écrit, et puis j'ai l'impression qu'on comprend tout. Hein. Au niveau comprendre les mots qui sont mis ensemble, on comprend tout. Après, les intégrer puis les faire vivre dans toute votre vie, c'est encore autre chose. On a vraiment besoin du secours de son esprit. Mais cette parole-là, elle est extrêmement claire, qu'il illumine les yeux de notre cœur, qu'on sache que l'espérance s'attache à notre appel. Donc c'est lui qui nous appelle, la glorieuse richesse de son héritage. Tous ces éléments-là, on les prend, et on les comprend et on peut les intégrer dans notre vie. C'est ça les promesses qui s'attachent au fait que Christ soit à la tête de l'Église. Ce n'est pas quelque chose d'autre que cela. C'est une bonne nouvelle qui nous dynamise. Parce qu'une conception possible de l'interaction avec Dieu, qui est souvent un peu la mienne, je dois l'avouer aussi, c'est une collaboration un peu d'égal à égal. Il y a Dieu, il y a moi, on se serre la main, et puis on va essayer de faire avancer les choses. On y va, on fait péter. Pendant longtemps, j'ai pensé cela, mais je suis en train gentiment, c'est peut-être depuis que je suis pasteur, de changer, notamment en méditant ce type de texte avec un regard neuf. Bien évidemment, je savais que Jésus était le chef de l'Église, je savais qu'il était à la tête de l'Église, je savais qu'il était Dieu et Sauveur. Mais dans les faits, j'avais vite tendance à considérer ma relation à la mission comme une relation un peu de donnant-donnant. D'égal à égal. Parce qu'on m'avait beaucoup encouragé à me dire, c'est pas Dieu qui va tout faire, mais toi, t'es aussi appelé à être actif. Alors, c'est toujours juste, simplement que je pense qu'il y a quand même un déséquilibre fondamental. Il y a quelqu'un qui a la tête, puis il y a quelqu'un qui suit. Celui qui a la tête, c'est Jésus, et puis moi, je suis. On n'est pas dans une relation donnant-donnant. On n'est pas dans une relation de type business où on serre la main pour faire des bonnes affaires ensemble. On est dans une relation de maître à élève, de maître à disciple, et que nous, nous sommes appelés à suivre celui qui nous a appelés. C'est ce que nous dit ce verset aussi. C'est l'espérance qui s'attache à son appel, cet appel qui nous pousse à aller en avant. Dans ce sens, l'Église est toujours à la suite et pas en collaboration également, en direct avec Jésus. On est son ami, nous sommes ses amis, évidemment, la parole nous le dit, mais on est appelé à vraiment vivre notre appel à sa suite, comme un corps. Je vais terminer là-dessus, sur cette Église qui est le corps dont Jésus est la tête. La première bonne nouvelle qui nous est transmise à travers ce constat, c'est que Jésus, il n'est pas en haut dans son ciel perdu, c'est que Jésus, en étant la tête de son Église et nous qui sommes son corps, la tête puis le corps, généralement, ils font partie du même corps. Sinon, on serait une Église décapitée. Ce ne serait pas très réjouissant comme constat. Nous ne sommes pas une Église décapitée, de loin pas. Nous avons Jésus qui est à notre tête et nous faisons partie de ce même corps que lui. C'est hyper dynamique quand on y pense. On n'est pas tout seul. On n'est pas à décider où on va. On se laisse guider par l'Esprit et par Jésus qui est à notre tête. Et puis là, si on commence à réfléchir, on a un peu le vertige parce qu'on se dit on fait partie du même corps que Jésus, il est à notre tête, il y a quelque chose d'extraordinaire. Puis après, on retombe un peu sur terre, puis on regarde la réalité de notre Église avec un grand E, je ne parle pas que de la frate, évidemment, voire même de l'histoire de l'Église. Puis on se dit, est-ce que vraiment Jésus a toujours été à la tête de l'Église? On connaît tous et toutes tous les travers de l'Église. Ils nous sont rappelés assez fréquemment dans les journaux, parce qu'on aime bien taper sur la tête de l'Église quand même, c'est une réalité. Puis on pourrait faire une liste longue comme le bras, je pourrais continuer jusqu'à demain matin, exprimer tous les méfaits que l'Église a faits, tous les travers dans lesquels elle est tombée, encore maintenant. Puis se dire, mais est-ce que vraiment un corps comme ça, dont Jésus est à la tête, est-ce vraiment juste? Est-ce vraiment la réalité? Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? On peut se poser légitimement la question, et ça problématise un peu cette relation que Jésus est à la tête de l'Église. Puis là, j'aime bien ce que dit un théologien qui m'inspire, qui s'appelle Bonhoeffer, puis qui dit, ça ne sert à rien d'essayer de trouver une réponse à cette question, mais si vous évacuez un des deux éléments de la question, c'est-à-dire que soit l'Église est parfaite puis qu'elle est déjà au ciel, soit l'Église qu'elle est que sur terre puis que Jésus l'a abandonnée, si vous allez dans une des deux extrêmes, vous êtes dans le faux. Ce que l'on doit apprendre à vivre en tant qu'Église, c'est ces deux réalités en même temps. Oui, l'Église est toujours humaine et par conséquent pécheresse, mais oui, Jésus-Christ est toujours à sa tête. Des fois, on a un peu de la peine à mettre les deux ensemble, hein, parce que ça nous paraît tellement dissocié qu'on se dit, mais comment faire l'association? Il y a une forme de mystère, de choses qu'on ne comprend pas toujours, mais il est interdit de dire que Dieu ou Jésus a abandonné son Église. Même si elle va mal, même si elle produit du mal, ce qui est une réalité, même si elle est profondément influencée par le monde qui l'entoure, ça ne remettra jamais en cause le fait que l'Église reste et restera le corps du Christ avec Jésus-Christ à sa tête. Jamais ça va remettre en cause ce constat-là. Et oui, de nouveau, il y a une grâce qui nous dépasse complètement. Il y a une grâce que, d'une certaine manière, nous pouvons essayer de nous approprier pour être au bénéfice de cette vie que Jésus veut donner à son Église, à son corps. Et en conséquence, je nous invite vraiment à porter ce regard fondamentalement positif et bienveillant sur l'Église avec un grand E, que ce soit la frate, évidemment, ou les autres églises qui nous entourent ici à Nyon, ailleurs dans le monde. Nous formons tous ensemble ce même corps dont Jésus-Christ est la tête. Ce regard bienveillant et rempli d'espérance n'est autre que celui que Dieu lui-même porte sur son Église. Fondamentalement, c'est celui-là qui porte. Ça ne lui empêche pas, on l'a vu, on le voit avec les prophètes de l'Ancien Testament, de nous remettre à l'ordre, de nous interpeller, de nous remettre en question. Mais fondamentalement, il pose ce regard de bienveillance sur son Église. Puis là, quand j'étais plus jeune, j'avais un pasteur qui, par la suite, m'a causé pas mal d'ennuis. Mais il portait un regard positif et bienveillant sur l'Église qui m'est restée. Puis j'ai été interpellé en préparant ce message par rapport à cette histoire que j'avais avec ce pasteur, parce que au fur et à mesure du temps, j'en étais venu à penser que des choses peu positives, on va dire, sur lui, parce qu'il m'avait quand même pas mal mis les bâtons dans les roues par rapport à différentes choses. Puis en préparant ce message, puis en ayant ce regard neuf sur l'Église, je me suis souvenu que lors d'un week-end de formation, il nous avait transmis cet amour presque inconditionnel pour l'Église. C'est extraordinaire ce que Dieu fait dans nos méditations, dans nos préparations. Et puis j'ai pu me ressouvenir de cet homme avec, il me semble, un autre regard que celui que j'avais l'habitude d'avoir. Je me suis dit, mais maintenant, ce que je vais garder de cet homme, c'est plus forcément, je ne vais pas l'oublier, parce que je ne suis pas un surhomme, je ne vais pas oublier les bâtons dans les roues, mais fondamentalement, j'ai envie de me souvenir de son amour qu'il avait pour l'Église et qu'il a toujours pour l'Église et qu'il m'a, d'une certaine manière, transmis un des pans de notre histoire commune qui a peut-être eu des hauts et des bas. Ça change tout ce regard si on sait que Dieu est à la tête de son Église avec son Fils Jésus, qui porte lui-même ce regard bienveillant sur qui nous sommes et sur ce que nous essayons d'être en tant qu'Église. Ce corps, finalement, il emporte ses conséquences de se savoir à la suite de son Seigneur. Il y a un dynamisme qui s'installe, il y a une vie qui s'installe. Et pour un corps, la caractéristique principale pour qu'il marche, c'est quoi? C'est qu'il a besoin de souffle, ce souffle du Saint-Esprit qui vient irradier chaque partie de son Église. On a besoin, avec cette image, de se rendre compte tout à nouveau de la nécessité du souffle, comme j'ai besoin de souffle tous les jours sans m'en rendre compte. L'Église a besoin du souffle de l'Esprit-Saint pour vivre. Là où il y a l'Église, il y a Jésus-Christ. Ce n'est plus quelque chose que l'on case comme ça de temps en temps, ou bien qu'on caserait le dimanche matin. L'Église est tout le temps là, et Jésus-Christ est toujours au milieu d'elle. À nous de rentrer et d'ouvrir nos cœurs à cette présence qui est déjà là. Là où il y a l'Église, il y a Jésus-Christ. Et puis je vais terminer ce message en évoquant une autre partie de notre ministère qui est là à la Frate le dimanche matin, mais aussi tout au long de la semaine. Et puis, vous parler d'un projet qu'on a, parce que plusieurs personnes du corps, justement, sont venues vers moi et m'ont dit « On aurait à cœur, par rapport à cette vision de partager l'amour de Jésus, de commencer de nouvelles cellules ou connect group où on pourrait véritablement vivre cette mission, vivre cet appel que Dieu nous offre. » Moi, j'ai rien demandé. Il y a plusieurs personnes qui se sont levées comme ça et puis qui ont rejoint effectivement un souci qu'on avait du conseil. Alors, il n'y a rien de nouveau sous le soleil au niveau de la manière de faire, c'est-à-dire d'avoir des groupes de maisons, des connect groups, des cellules. Quoi qu'on les baptise, on s'en fiche complètement, ce n'est pas le nom qu'il va porter. Mais par contre, qu'il y ait une envie nouvelle à travers ces groupes de maisons, de faire connaître qui est Jésus, de pouvoir accueillir ceux qui sont déconnectés, que ce soit de l'Église ou de Dieu, là, il y a quelque chose dont il nous faut être attentif, il y a quelque chose qui, d'après moi, est dans le plan de Dieu pour que nous puissions suivre et aller dans son appel. Et puis, on a décidé de se rencontrer pour une première mise au point, un peu partage. Ce sera lundi soir, le 13 février. Or, on a déjà contacté plusieurs personnes pour qu'on sentait déjà. Il y a certaines personnes qui nous ont dit qu'ils étaient motivés. On a contacté aussi tous les responsables de cellules déjà existantes pour savoir ceux qui seraient disposés à aller dans cette direction-là. C'est en tout cas pas une obligation parce qu'on a envie de créer quelque chose de nouveau dans le sens où ces cellules, c'est pas forcément pour des chrétiens aguerris, mais c'est pour des personnes peut-être en recherche, en début de vie de foi, des personnes qui ont besoin d'être reconnectées à Dieu, plutôt que des personnes qui sont déjà depuis longtemps dans la foi et qui désireraient approfondir. On est vraiment dans un seuil plus haut. C'est ce qu'on va aussi vivre ce lundi soir-là, pour un peu exprimer quel est le sens de notre vision. Mais moi, j'attends encore d'autres réponses, d'une certaine façon, de personnes qui pourraient se dire « J'ai à cœur d'aller dans cette direction-là, dans ma maison, dans ma vie de foi, pour partager ce que j'ai sur le cœur. » Or, si c'est le cas, n'hésitez pas, venez vers moi, bienvenue vers David et Aline, qui sont aussi avec nous dans ce projet-là, pour que l'on puisse partager au maximum ce qu'il y a sur notre cœur. Puis à titre personnel, j'ai quand même commencé ici à la FRAT il y a 2 ans, à peu près, 2 ans et demi. Et puis, on a commencé par un spectacle, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui s'appelle Marc l'Expérience. C'est un spectacle de tout avec des comédiens amateurs. Et puis, c'était simplement l'évangile de Marc qui était joué de manière théâtrale. Puis suite à cette expérience théâtrale, on s'est dit que ce serait peut-être bien que pour les personnes qui désireraient en savoir plus sur qui est Jésus, de pouvoir avoir un groupe de maison où on découvrirait justement qui est Jésus. Ça a donné ce groupe Marc l'Expérience. Puis on est parti en se disant, bon, on va aller de foi en foi pour voir qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer avec un groupe pareil. Alors j'ai commencé un samedi tout frais, émoulu, stagiaire, super dynamique. Et puis il y a quand même une personne qui est venue à ce groupe-là. On s'est dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On annule, on continue, qu'est-ce qui nous arrive? Et puis finalement, on se rend compte que cette découverte de qui est Jésus, tout simplement, ça permet, ça rencontre un besoin. Ça rencontre un besoin profond. Et puis, ben, 2 ans et demi plus tard, ce groupe s'est étoffé. C'est bien étoffé. Il a vu passer plusieurs personnes. Plusieurs personnes qui connaissaient même rien du tout à Jésus. Et puis, qui ont pu, à travers un épisode de la vie de Jésus, un texte de l'Évangile, découvrir un petit peu plus de qui il était et puis de voir à quel point des cœurs ont pu être transformés. Donc moi, je suis hyper reconnaissant d'avoir pu vivre cette expérience parce que j'ai découvert, en fait, ces groupes de maisons et ces cellules à la FRAT. J'avais jamais vraiment vécu ça avant, mais j'ai découvert ça et j'ai été vraiment encouragé parce que de découvrir Jésus avec des personnes qui ne le connaissent pas, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté, mais il n'y a rien de plus boostant que ça. Même en tant que chrétien expérimenté, on est hyper enrichi par cette capacité de partager et de partager l'amour de Jésus. Alors, je voulais terminer avec ces mots de témoignage. Je remercie aussi ceux qui sont ici dans la salle et qui font partie de cette cellule de Marc l'Expérience, qui se réunit d'ailleurs mardi soir, et puis pour laquelle on a vraiment été bénis dans cette expérience-là. Alors, si vous avez à cœur vous aussi de réentamer quelque chose ou d'entamer quelque chose qui va dans cette direction-là, rendez-vous le 13 février, 20h15, au bureau avec le conseil. Merci de votre attention. Amen.